Je vais donc aujourd'hui le livrer à une étude qui est très très différente de celle que vous avez entendue, parce qu'en fait je vais essayer de mobiliser plutôt des intuitions que vous pouvez avoir sur le juste usage d'un certain nombre de mots ou la ressemblance d'un certain nombre de raisonnements avec les raisonnements scientifiques d'une manière assez philosophique, en testant plutôt vos capacités à être d'accord ou pas avec une certaine manière de présenter les choses, ce qui est plutôt ce qu'on fait en philosophie des sciences, n'est-ce pas ? Plutôt que de faire de présenter hein, des résultats expérimentaux. Donc je vais parler de quelques arguments auxquels je crois plutôt, parce que je suis assez sceptique, contre l'intérêt même du dialogue entre neurosciences et psychanalyse. Ariane Bazan, dont vous avez parlé tout à l'heure, montre très bien dans son bouquin, là, sur des fantômes dans la voix, qu'il n'y a aucune espèce pour moi d'obstacle à ce que quelqu'un qui fait de la neurobiologie puisse entrer par ce biais dans une discussion avec des patients et utilise des concepts qui lui viennent de sa formation de biologiste, de neurobiologiste, pour en discuter. Après tout, Freud l'a fait, et c'est quand même pas interdit. Bon. La question de fond, c'est de savoir si la rationalité de la psychanalyse, de la démarche, de la façon dont on met à l'épreuve et dont on se teste soi-même pour savoir au fond si ce qu'on fait est correct et adapté, doit passer ou gagne quelque chose à être formulé dans un vocabulaire qui viendrait, dans des méthodes de pensée, qui viendrait plutôt du côté de la neuropsychologie ou de la neurobiologie. Et si, par exemple, finalement, on peut défaire le travail qu'a fait Freud, qui a été d'affranchir l'idée d'appareil psychique de l'idée d'appareil neuronique, hein, bien séparer les deux, en disant que les neurosciences contemporaines nous permettent de réécrire tout ce qui est de l'ordre de l'appareil psychique, du jeu des instances, de tout ce qu'on utilise dans les représentations psychodynamiques, dans les psychothérapies par exemple, de le réécrire d'une nouvelle manière avec des neurosciences dont Freud n'aurait jamais eu l'idée, bien sûr. Le point essentiel, bien évidemment, tout le destin de l'utilisation de la notion d'appareil psychique, notamment chez Bion, ou bien dans les schémas topologiques, entre guillemets, de Lacan, va dans le sens d'une dématérialisation totale et d'une absence absolument irrécupérable, n'est-ce pas, de quoi que ce soit comme un cerveau. Enfin, Bion, c'est pas forcément si évident, mais avec Lacan, ça s'est proclamé sur tous les tons, hein, puisque justement, c'est ça qui lui importe, c'est de montrer que tout ce qu'on peut décrire en termes neuropsychologiques, qui prend des cas célèbres d'aphasie de Goldstein, par exemple, peut ressembler par plein de symptômes extérieurs à la psychose, tellement les symptômes ressemblent, et pourtant, il y a quelque chose dans la psychose qui est absolument irréductible à ça. On pourrait le faire, par exemple, sur la question de l'autisme, la question là se pose de façon très forte aussi. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec la question de l'intentionnalité, justement du fait que l'intentionnalité, c'est pas le regard qui a une intention, mais l'intentionnalité, ça se définit d'une manière tout à fait particulière qui éventuellement pose un problème autre que celui du regard adressé ou des choses de ce genre. Il y a un deuxième point aussi dans lequel j'attiédis aussi en introduction des choses, c'est que j'ai consacré avec la petite équipe de gens qui travaillent avec moi pas mal de temps à l'an dernier à lire un très beau livre d'Eric Bolton et Jonathan Keel qui s'appelle Mind, Meaning and Mental Disorder, qui est une sorte de somme de la psychopathologie cognitive contemporaine, qui est extrêmement bien faite, qui reflète extrêmement bien, je crois, c'est un livre dans la deuxième édition de 2003, qui est une vraie tentative de présenter de manière cohérente ce que c'est que la psychopathologie cognitive contemporaine d'un point de vue évolutionniste, hein, en intégrant la dimension évolutionnaire comme une dimension organisatrice de la théorie de l'action, de la théorie d'adaptation, et à partir de l'action et de l'adaptation, de réécrire tout ce dont on a besoin au niveau des troubles de la perception, de l'émotion, etc. etc. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que justement, il retrouve un certain nombre d'intuitions très très fortes, notamment au niveau des interactions précoces mère-enfant. Alors évidemment, c'est quand même plus Bowlby que Winnicott, hein, mais néanmoins, explicitement Winnicott est cité, explicitement un certain nombre de psychanalystes sont cités, et ils ne les traitent absolument pas dans cette tradition britannique, hein, comme en France, vous avez une tradition d'antagonisme absolu, n'est-ce pas, où la psychopathologie cognitive, ça n'a fondamentalement aucun rapport avec la psychodynamique, surtout même avec les enfants, et même dans le cadre développemental, il y a des gens qui ne veulent pas que ça se mélange. Alors, ce qui est très amusant avec Bolton et Jonathan Hill, c'est que comme la psychanalyse est totalement morte dans leur pays, n'est-ce pas, ça n'a plus plus aucun sens pour personne. Et ils trouvent ça extraordinairement intéressant, eux. Ils trouvent que finalement, eux, les histoires de neurosciences retrouvent d'une certaine manière des intuitions qu'ils créditent, hein, ou Winnicott ou des gens comme ça, d'avoir, même Mélanie Klein, d'avoir des intuitions très fortes à cet égard. Bon, je laisse de côté ce point, mais ça me permet de faire référence aux deux personnes dont je parle à mots couverts dans l'exposé. La première, c'est Solms, hein, n'est-ce pas? Solms étant, Mark Solms étant peut-être celui qui est le plus orienté vers la première topique, l'idée que la première topique, on peut leur donner du sens à partir des nouvelles découvertes des neurosciences, et qu'on peut considérer à la fois Freud comme un précurseur d'un certain nombre, quelqu'un qui aurait eu à titre d'intuition, des intuitions qui évoquent des choses qu'on peut mieux comprendre aujourd'hui, grâce à une connaissance neuroscientifique, et puis à l'autre bout, Shore, hein, Alan Shore, qui serait plutôt, alors là, Cogutien, hein, c'est pas vraiment quelqu'un qui est très intéressé par des formes de thérapie psychodynamique post-freudienne, n'est-ce pas, à la Cogut, utilisant des notions de self ou de narcissisme, et qui donc est parti sur le cheval fou de l'empathie, sur lequel il galope encore, en pensant qu'effectivement, il y a les neurosciences de l'empathie, les neurosciences affectives, offrent en réalité un support conceptuel qui permettrait enfin de mettre de l'ordre dans le désordre de ces le désordre doctrinal ou les conflits vains entre les théoriciens de telle et telle forme de self, d'empathie, etc. etc. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que justement, effectivement, il s'intéresse là à des questions de développement. Vous savez que le problème de Shore, c'est que quand on lit les articles d'Alan Shore, tout ce qui est en citation, c'est des opinion papers, n'est-ce pas? Et les opinion papers, même citent des opinion papers. Et donc la quantité de faits aussi précis que ceux qu'on a eu dans la première partie de la soirée, enfin, comme ça, qu'ils sont capables de mobiliser, est en fait assez faible. Quoi. C'est-à-dire c'est les possibilités d'interpréter les choses dans ce sens, beaucoup moins que des trucs aussi... aussi ferme et établi que ce qu'on peut voir, par exemple, avec un travail sur des choses plus... avec une modalité particulière, sensorielle particulière, etc. Bon. Alors, je fais une dernière précaution. Les philosophes prennent toujours énormément de temps. Pour de toute façon, parce que vous ne sachiez pas trop, effectivement, de quoi je vais parler, tellement j'ai des précautions pour être précis. Donc, je ne vais pas parler également de ce que je considère comme des analogies purement verbales, n'est-ce pas? Par exemple, l'inconscient cognitif au sens des théories de la perception, les perceptions infraconscientes, le blind sight, etc. Pourquoi? Parce que les analogies entre inconscient cognitif et inconscient freudien, c'est surtout des signes de l'ignorance absolue du fait que pour que les concepts aient du sens, il faut qu'ils respectent l'histoire de leur genèse. Et qu'évidemment, on n'a pas attendu la psychanalyse et on ne s'est jamais intéressé à la psychanalyse pour travailler sur le blind sight ou sur les perceptions infraconscientes, hein, seraient-elles sémantiques, etc. Et donc, je tiens qu'il n'y a aucun rapport entre les théories de la perception comme celle qu'on a chez Lionel Nakache et quoi que ce soit de freudien. Mais alors, strictement aucun. Alors, du temps de Freud, c'était déjà le cas, il suffit d'ouvrir un bol, c'est du Boiron, il suffit de connaître. Mais le mot, comme un catchword, n'est-ce pas, le bout d'inconscient, a cette signification. Quelque chose de précis quand on parle de neurosciences et de psychanalyse. Pourquoi? Toute une série de six problèmes qui se posent qui, à mon avis, rendent impossible vraiment de parler de quelque chose de précis quand on rapporte neurosciences et psychanalyse. Le premier problème, de quelle psychanalyse parlez-vous? Il y a un argument bien connu il y a le vide-locher, n'est-ce pas? C'est qu'il n'y a plus de psychanalyse au singulier, il y en a même tellement au pluriel que lui-même s'y perd, n'est-ce pas? Malgré tout le soin qu'il peut mettre à comptabiliser les formes et les sous-variantes. Bon. Et qu'en plus de ça, chacun d'entre eux considère que ce que font les autres, c'est du pipeau. Donc, que c'est un abus extraordinaire, ou bien que c'est une incompréhension des textes fondamentaux, etc. Donc, quelle psychanalyse, au fond, peut se rapprocher le plus des neurosciences? Une psychanalyse qui peut être naturalisée, et c'est-à-dire qui peut être alignée sur les concepts et les méthodes des neurosciences. Je ne sépare pas les concepts et les méthodes, c'est pas parce que vous avez le mot d'inconscient, vous avez, ou le mot de cognitif, que vous avez des sciences cognitives. qui va avec le cognitif, c'est des modalités d'administration de la preuve, c'est le recours à de la neuroimagerie, c'est des tests psychométriques, c'est toute une batterie, c'est tout un espace scientifique qui fait que quand vous utilisez cognitif au sens des sciences cognitives. Par exemple, les thérapies cognitives, elles ne sont cognitives que depuis assez peu, parce qu'au fond, quand on a utilisé le mot cognitif, quand Beck l'a introduit, c'était pour s'opposer à l'affectif. Les sciences cognitives n'existaient pas dans les années 60 au sens des sciences cognitives d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas séparer les choses. Alors, donc il y a beaucoup de psychanalyse, et évidemment, je pourrais toujours vous dire que ce n'est pas possible, parce que la psychanalyse que j'aime bien n'est pas naturalisable, donc elle n'a aucun rapport avec les sciences cognitives. De la même manière, il faut faire attention à ce que la psychanalyse ne soit pas dissoute dans une psychothérapie relationnelle vague, hein, parce qu'au fond, dès qu'on écoute les gens parler, aujourd'hui, il paraît que c'est de la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on est simplement sympa, avec un peu d'empathie au sens le plus vague possible, et qu'on n'est pas en train de faire de la rééducation, de la remédiation cognitive, etc., alors ça paraît psychodynamique. Le psychodynamique est devenu très bon marché, hein, sur le, et que donc, voilà. Alors, par exemple, quand vous pensez que des gens comme Rénik, n'est-ce pas, qui est vraiment le degré zéro de la discussion sympa avec le patient avec effet thérapeutique garanti et mesuré, a droit d'être publié dans l'International Journal of Psychiatry, on s'arrache les cheveux. C'est quand même, vraiment, il n'y a plus, c'est quelqu'un qui nie l'existence de l'inconscient, des pulsions, du self, à peu près la quasi-totalité du lexique de la psychanalyse contemporaine, mais qui publie dans les GP, qui est psychanalyste, etc. C'est quand même, qui a été du moins psychanalyste. Donc c'est très important. De la même manière, s'il y avait une neuropsychanalyse, il faudrait que cette neuropsychanalyse conserve, qu'on puisse y retrouver dans la genèse de ces concepts, quelque chose de la genèse de l'histoire conceptuelle des concepts qu'elle a naturalisés. Alors Shore, par exemple, fait cet effort, parce que Shore, il s'intéresse à Kohut, et il essaie de capter dans Kohut un certain nombre de raisons qu'avait Kohut de ne pas être d'accord avec certaines thèses psychanalytiques de son temps, notamment la polémique sur le self, l'ego psychology, etc. Donc ça, c'est un peu plus consistant, Shore, c'est pour ça que je le choisis, parce que lui, il s'efforce d'inscrire la neuropsychanalyse, un rapprochement substantiel, dans une histoire, et où les concepts qu'il utilise continuent à donner du sens à la distinction que Kohut lui-même avait fait entre sa forme de psychanalyse et celle qu'il critiquait, mais aussi celle dont il héritait. Donc ça, il y a quelque chose qui est un peu plus consistant. De même, Solms, par exemple, essaie de se rattacher aux prémices qu'il y a dans les théories de l'aphasie de Freud, la théorie du langage, des représentations, voire du rêve, qu'il essaie en quelque sorte de conserver dans certaines de ses idées la continuité entre les textes sur l'aphasie, le projet de psychologie scientifique et l'appareil psychique de la Traumdeutung, la théorie du rêve. Il essaie d'en garder quelque chose, même si c'est extrêmement altif. Le deuxième problème qui se pose, c'est que Freud, par exemple, est incontestablement quelqu'un qui, pour qui la psychanalyse appartenait à l'espace des sciences naturelles. Bon. Il inscrit clairement dans plein de textes la psychanalyse dans la vision scientifique du monde de son époque, et que ce qu'on appelle le naturalisme, il ne faut pas oublier, c'est deux choses. Le naturalisme, c'est d'abord c'est une manière de faire de la philosophie des sciences, le naturalisme, ce n'est pas du tout une science ou une théorie, c'est une manière de faire de la philosophie des sciences dans laquelle vous considérez que l'idéal d'une démonstration, c'est celle qui est donnée en physique ou en biologie. Et que plus on veut faire ressembler un argument argument tel qu'il est exposé par un biologiste ou un physicien, mieux vous satisfaites à un idéal de la preuve et de la construction de la théorie, et plus vous êtes naturaliste. Alors évidemment, l'intérêt, c'est de l'étendre dans des domaines qui ne font pas partie de la nature. Par exemple, l'économie. Par exemple, la psychologie, autrefois, ou certaines formes de sociologie, par exemple, qui sont censées être des sciences qui ne sont pas des sciences de la nature, vous appliquez la méthode des sciences de la nature. Donc, en gros, une méthode hypothético-déductive, expérimentale, etc. Et puis, il y a un deuxième sens de nature qui est très important et qui est souvent méconnu par les gens qui la pratiquent, c'est que la nature, elle a quand même une propriété bien intéressante, c'est qu'il n'y en a qu'une. Et que donc, c'est donc un immanentisme, c'est un monisme. Quand on est naturaliste, on pense qu'il n'y a qu'un seul truc, c'est la nature. Et que donc, toutes sortes de mots, comme toutes sortes de choses qui connaissent des gradations, des variétés, etc., doivent être pris dans un continuum, dans une continuité. Et c'est particulièrement vrai d'une chose qui est le problème épistémologique des sciences cognitives et de toutes les disciplines qui s'y rattachent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut naturaliser quelque chose comme l'intentionnalité. C'est-à-dire, est-ce que entre la visée, l'intentionnalité qui par exemple existe entre un mot et la chose dont je parle, hein, par exemple quand je parle de bouteille, n'est-ce pas, la relation intentionnelle qui fait que le mot bouteille désigne la chose bouteille, hein, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité chez les logiciens, par exemple, hein, ou chez les linguistes? Est-ce que cette intentionnalité-là est du même ordre que celle de l'intentionnalité motrice, qui fait que, par exemple, j'ai l'intention de prendre mon stylo et de le poser de l'autre côté, avec tout l'appareillage moteur, visuomoteur, par exemple, qui est mobilisé dans un geste aussi simple? Par exemple, la pince de pédale qui s'écarte, qui s'adapte exactement à la taille de l'objet que je vais prendre, qui fait que je corrige la trajectoire de mon geste, enfin, quand je n'ai pas de lésion particulière, que je corrige la trajectoire de mon geste au moment où je vais prendre les objets. Si on le recule, je le rattrape, etc., etc. Tout ce contrôle intentionnel de l'effectuation de l'action, est-ce que c'est le même mot d'intentionnalité qu'on utilise? On n'a jamais eu, avant les sciences cognitives, l'idée extravagante que ça pourrait être le même mot. Mais si vous êtes naturaliste, vous devez construire une théorie de l'intentionnalité qui fait que lorsque l'intentionnalité de l'action et du geste s'applique aussi à l'intentionnalité dite de haut niveau, que moi je considère comme totalement hétérogène, mais que les cognitivistes considèrent comme simplement beaucoup plus complexe et sophistiquée, qui est celle qui a lieu lorsque mes mots désignent des choses, lorsque, par exemple, au niveau du langage, je suis capable de parler des objets. Être naturaliste, c'est penser qu'il n'y a qu'une seule chose qui est la nature, et que donc s'il y a une intentionnalité, il y a une continuité entre tous ces phénomènes. Et qu'une science cognitive complète irait de l'élucidation du traitement de l'information au niveau, par exemple, psychomoteur élémentaire, jusqu'à cette action supérieure et extraordinairement complexe qui est le langage articulé avec ses composantes sémantiques et sa capacité, par exemple, à désigner des objets et à interagir avec autrui en désignant des objets dans un espace de sens partagé. Donc, comme vous savez, les sciences cognitives sont fondamentalement impérialistes. Elles ont commencé avec le cerveau, elles s'attaquent aux liens sociaux, elles s'attaquent à des grammaires cognitives et des théories du langage, etc., extrêmement sophistiquées, qui ne sont pas des théories de l'étiquetage, qui sont des théories de la référence, extrêmement subtiles et profondes, dans le but que tout soit sur le même spectre, en quelque sorte, à l'intérieur de la nature. Alors, la psychanalyse, à cet égard, la psychanalyse, avec son usage son passé matériel, sa filiation naturaliste chez Freud, qui pensait que la psychanalyse était une sorte de science expérimentale un peu bizarre, où la clinique joue un rôle des sciences expérimentales, hein, et puis la neurologie devrait être, ou la neurobiologie devrait être, elle aussi, en continu. Absolument personne qui pense que Freud a réussi son projet de naturalisation. Hein, il y a un livre célèbre de Patricia Kitcher sur la question qui explique que Freud a fait le rêve des sciences cognitives contemporaines, mais était incapable de le mettre à exécution. Mais surtout, le problème, c'est que la quasi-totalité du savoir psychanalytique qui s'est développé après Freud s'est développé dans l'ignorance, et pas simplement l'ignorance, dans l'indifférence la plus totale à l'égard des progrès des connaissances sur le cerveau. À la plus totale. Et que donc, vous avez un siècle quasiment de psychanalyse qui s'est développé et qui fait ce qu'est la psychanalyse, au moins, sinon bien plus encore que ce que fait Freud, dans une indifférence totale au cerveau. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin, pour devenir analyste, de savoir quoi que ce soit, semble-t-il, sur le cerveau. Alors, troisième problème, hein, qui se pose, c'est qu'il y a peut-être quand même des cas où ça pourrait présenter un intérêt. Alors, je pense à... Le cas des patients cérébraux lésés en est un, hein, c'est peut-être la piste la plus manifeste. Hein. Mais un des problèmes qui se pose dans le traitement ou le suivi de ce type de patient, c'est que je n'ai jamais vraiment bien compris, moi, si le trouble était central ou si le trouble était périphérique, qu'est-ce que ça pourrait bien faire à l'analyste? Est-ce qu'il a vraiment besoin, pour faire son travail, que le trouble soit central, hein, que quelqu'un se soit cassé le bras en faisant du ski ou soit paralysé parce qu'il a un hématome subdural, est-ce que par rapport à ce qui implique justement la prise en charge d'un patient, ça pose un problème particulier à l'analyste? Est-ce qu'il est obligé de s'interroger sur ce que ça change du fait que ça vienne du cerveau? Ça, c'est une question qui est assez ouverte. Il y a une deuxième zone où le psychanalyste peut se poser des questions, c'est les troubles développementaux, comme ceux, par exemple, dont il a été question ici. Le problème étant évidemment qu'un analyste ne soit pas un cerveau, soit une personne. Et que cette personne ait un cerveau dans la tête, dans le meilleur des cas, c'est pas forcément quelque chose dont il a à tenir compte au niveau des instruments qu'il manipule. Bon. Est-ce que ça peut changer quelque chose de savoir sur ce que la personne a dans le cerveau? Par exemple, j'ai été moi révulsé par une proposition que je trouve absolument typique de ce que je n'aurais jamais voir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y avait sur votre slide, n'est-ce pas? En psychothérapie pour accepter sa cécité. Moi, ça m'a glacé le sang de voir ce genre de choses. Parce que ça veut dire qu'on va trouver des psychothérapeutes hein, qui vont, effectivement, on va leur dire, voilà, cette personne, elle a telle et telle pathologie, et donc on va lui faire accepter sa cécité. Sauf qu'effectivement, c'est toujours comme ça avec les psychothérapeutes. En fait, il n'est pas du tout aveugle, le gamin. Quoi. Mais c'est pas grave. Le psychothérapeute va lui faire accepter sa cécité. Il est payé pour ça, il a des techniques pour ça. Alors ça représente tellement... Pour moi, l'abomination de la désolation, c'est exactement tellement ce que j'aimerais. Si la psychanalyse existe, c'est pour que vraiment on renvoie d'un trait barré en rouge toute demande, n'est-ce pas, de faire des psychothérapies pour faire accepter sa cécité aux gens, j'ai été extrêmement surpris. Quoi. Vraiment, c'est invraisemblable qu'on ait trouvé un psychothérapeute pour faire accepter sa cécité aux gens. J'en rajoute des tonnes, mais c'est pour que les discussions intéressent. Il y a un autre cas, alors c'est un truc où je m'intéresse, oui, parce que l'histoire me fascine comme historien de la psychiatrie et de la neurologie, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Parce qu'il y a une vieille histoire de savoir si par hasard il n'y aurait pas chez les Tourettiens quelque chose qui a quand même trait, hein, fondamentalement, à des histoires relationnelles, inconscientes, etc. Quand vous lisez La vie d'un tiqueur, hein, publié par Neige, le cas de Haut, c'est quand même quelques Ferenczi à commenter, hein, c'est quand même des choses assez étonnantes. On est quand même embêté de ne pas dire que, bon, peut-être qu'il a certainement quelque chose, je dis, ben, les Tourettiens, ils ont quelque chose dans le cerveau, c'est peut-être développemental, c'est peut-être neuro-humain, je ne sais pas exactement, hein, ça c'est sûr, ils ont des... Mais en même temps, la manière dont ils gèrent ça avec les autres... Cette façon qu'ils ont de sortir exactement l'insulte qu'il faut, la plus méchante, la plus pertinente, la plus ajustée au contexte pour se foutre dans des situations sociales absolument dramatiques et pour rire et pour mettre les rieurs de leur côté, il y a quelque chose quand même, on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a quelque chose de psychologique, de psychodynamique en un sens vraiment fort, vraiment riche et dense. Bon. Alors ça, c'est l'éthique, les tocs, n'est-ce pas, le fait que les coprolalies sont justement adressées. C'est pour ça que je vous posais une question sur la forme grammaticale. Évidemment, quand les gens utilisent des insultes dans la coprolalie, comme merde, foutre ou pute, par exemple, qui ne peuvent s'adresser qu'à un seul type de personne, hein, ou bien qui sont neutres, ça va. Mais quand ils disent salaud à un homme et salope à une femme, ça montre bien qu'ils parlent, hein, c'est l'intentionnalité, c'est pas des décharges neuronales, c'est une décharge neuronale qui est incroyablement adaptée au contexte et qui fait qu'ils visent exactement quelqu'un. Alors, j'ai trouvé dans l'histoire, par exemple, du syndrome, ça a été longuement élaboré ça, au XIXe siècle, c'est résiduel dans les discussions aujourd'hui. Mais le fait qu'il y ait un à-propos, donc une intentionnalité, de très haut niveau dans un certain nombre de tics ou de coprolalies est quand même problématique. Surtout qu'en plus je prenais salaud et salope, pour vous dire, il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est ce que Littré dit de salaud et salope. Hein. Vous savez que Littré se demande pourquoi on n'écrit pas salaud S-A-L-O-P, puisqu'on a salope au féminin. Hein. Et Littré fait cette remarque extrêmement forte, que ce sont des insultes qui sont utilisées pour qu'elles ne soient pas réciprocables. C'est-à-dire c'est les femmes qui traitent les hommes de salauds et les hommes qui traitent les femmes de salopes, n'est-ce pas? Mais de façon à ce qu'on ne puisse pas utiliser le même mot pour retourner l'insulte. Et il y a toute une analyse comparative, anthropologique, qui montre que ce sont des ressources, vous voyez, dans la coprolalie, pour qu'il y ait des asymétries qui seront maintenues dans les usages du langage. Bon. C'est quand même vachement intelligent d'insulter les gens comme ça. Vous voyez, ça suppose qu'il y ait une finesse dans l'appréciation de la langue, qui est quand même assez intéressant, que la dissymétrie orthographique est un héritage de cette asymétrie. Donc les gens qui ont travaillé sur la sémantique de l'insulte, dans des langues ont travaillé notamment là-dessus. Alors moi je trouve ça assez curieux, parce que vous voyez, là, on a quand même le sentiment que s'il n'y a pas un élément transférentiel minimal, n'est-ce pas, une prise en compte du contexte sous des formes extrêmement riches, avec des dimensions sexuelles, de provocation, d'agressivité, c'est à désespérer. Donc là, on va pas dire, vous voyez, que c'est purement des décharges neuronales, ou que c'est parce qu'ils ont je ne sais pas quoi une maladie auto-immune qui leur a abîmé les circuits des noyaux gris centraux. Hein. C'est sûrement le cas, mais ça n'explique pas cette finesse relationnelle. Peut-être là, il y aurait un verre. Je passe au quatrième problème. Je pense que c'est un problème que peut-être vous êtes moins sensible, c'est qu'il faudrait faire attention aussi à ce, quand on parle de rapport entre neurosciences et psychanalyse, qu'au fond on n'ait pas remplacé le mot inconscient par le mot cerveau. Et puis, au fond, en tournant en rond dans le même dispositif. Je pense en particulier aux travaux de Cozzolino, n'est-ce pas, qui expliquent carrément aux gens que s'ils sont comme ça, ben c'est parce que leur cerveau est comme ceci ou comme cela. Comme les psychanalystes freudiens des années 50 vous expliquaient que si vous n'aimiez pas votre maître parce que le complexe d'Œdipe était fait de telle et telle manière, etc., comme si on pouvait regarder dans sa poche en se disant tiens, mon complexe d'Œdipe, il est fait comme ça, et comme des sortes de propriétés objectivées de l'esprit, où les gens, c'est parce que vous avez une mauvaise mère. Alors, on se scrute en soi pour chercher où est sa mauvaise mère, n'est-ce pas ? On voit bien des trucs, mais bon, elle était quand même pas si mauvaise que ça, alors on ne sait pas trop quoi faire. Hein. Ben ça, maintenant, on remplace ça par le cerveau, n'est-ce pas ? C'est pas vous qui êtes malade, c'est votre cerveau. Et Cozzolino l'a beaucoup développé, même chez Follansbee, là, qui a fait un truc récent, plus développé sur ces questions de psychothérapie, il y a cette ambition, n'est-ce pas, de déstigmatiser les gens en disant, au fond, voilà, c'est pas vous, c'est votre cerveau. C'est moins stigmatisant que de dire c'est pas vous, c'est votre inconscient. L'inconscient, c'est un peu culpabilisant, n'est-ce pas ? On dit que votre cerveau, c'est un bout de barbac comme ça, ça ne peut pas que vous culpabiliser. Ce que vous voyez très bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'inconscient du tout. Puisqu'en fait, c'est du moi, tout ça. Hein. C'est du moi dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais du moi dont vous n'êtes pas forcément conscient, ça ne fait pas de l'inconscient. L'inconscient, c'est plus cher. Sur le plan épistémologique, sur le plan théorique, sur le plan de ce à quoi ça vous commet à l'égard des patients, l'inconscient, c'est pas ça. Le cinquième problème, c'est qu'il y a une différence majeure entre une explication causale dans les neurosciences et une explication causale dans le registre de la psychanalyse. Le problème de... On ne peut pas remplacer l'idée de conflit psychique par l'idée de cerveau comme ça, parce que Le problème, c'est que le cerveau cause pas un symptôme au sens où un conflit psychique cause un symptôme. Ce qui intéresse énormément Freud et ce qui intéresse les psychanalystes, c'est que si nous faisons quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'une cause qui est impliquée. Mais c'est pas simplement parce qu'il y a une multiplicité de causes qui sont concurrentes, c'est parce que la pluralité de la causalité est essentielle pour rendre compte du caractère propre du symptôme en tant que symptôme psychique. Et que je crois que lorsque on applique des explications causales, même en réseau, même complexe, à des phénomènes qu'on pourrait décrire en termes psychologiques, qu'on explique avec des neurosciences, on perd totalement de vue ce que c'est que cette notion de surdétermination causale et son usage en psychanalyse. Bon. C'est pas, et là, il y a, me semble-t-il, une incompatibilité de méthode. Et puis, je vais me servir d'un exemple pour faire transition avec la partie suivante. C'est qu'il me semble que la façon dont la psychanalyse décrit les actions, les comportements, les conduites, la façon dont les gens parlent, dont ils s'adressent la parole, privilégie une dimension de l'intentionnalité qui est, par définition, au-delà des prises de la naturalisation des comportements. Alors, pour expliquer de quoi il s'agit, je vais recourir à... Je vais insister un peu plus longtemps sur un célèbre, chez les philosophes, uniquement chez les philosophes, un célèbre exemple d'une philosophe qui s'appelle Elisabeth Anscombe, qui était une élève de Wittgenstein. C'est l'image de l'homme qui pompe de l'eau. Alors, il est à une pompe et il pompe de l'eau. Et alors, dit Anscombe, n'est-ce pas, vous voyez toujours là, le geste, hein, donc on peut décrire quelqu'un qui pompe de l'eau. Il pompe de l'eau pour faire monter de l'eau dans une maison pour que les gens boivent le liquide. ce liquide est empoisonné parce que son intention... Vous voyez, je fais toujours le même geste et observez la transformation de ce que je suis en train de faire, alors que je fais toujours le même geste à mesure que je parle. Donc il fait monter de l'eau pour que les gens dans la maison puissent en boire. Cette eau est empoisonnée parce qu'il veut assassiner ces gens qui se sont réunis pour fomenter une guerre mondiale que le type qui pompe de l'eau veut empêcher en les assassinant tous. Donc vous voyez, l'exemple d'Anscombe part de l'idée qu'il pompe de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il pompe de l'eau ou il empêche le déclenchement d'une guerre mondiale? Ou il empoisonne les gens? Ou il... Vous voyez, l'enchaînement des choses. Le même geste, suivant qu'on enrichit la description sous laquelle l'action est faite, peut varier du tout au tout. Alors ça, cet exemple de la description, de l'enrichissement de la description de l'action, qui fait que de plus en plus... vous vous éloignez du geste moteur et vous allez vers un acte qui a une valeur morale, il empêche le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Cette espèce de continuité qui est le problème fondamental de l'intentionnalité de l'action. C'est comment est-ce que, en faisant ça, j'ai pu faire autant de choses différentes. Pomper de l'eau, donner à boire, empoisonner des gens, empêcher une guerre mondiale. Est-ce que mon action est, au fond, la même d'un bout à l'autre. Si vous êtes naturaliste, eh bien, vous êtes commis philosophiquement et épistémologiquement à une théorie qui explique comment, dans le mouvement intentionnel, c'est-à-dire dans les représentations qui commandent l'action, il y a déjà le sens d'empêcher une Troisième Guerre mondiale. Pour Anscombe, il est évident qu'on n'y arrivera jamais. Et donc la conséquence d'Anscombe, c'est que tout ce qu'on peut savoir sur la neurobiologie de l'action est totalement inutile pour rendre compte de ce que c'est qu'une action humaine. Je répète, parce que souvent, les gens en général s'évanouissent quand je dis ça. Tout ce qu'on peut savoir de la neurobiologie du geste ou de l'action est totalement inutile pour rendre compte de ce que c'est qu'une action humaine, intentionnelle, dans un contexte social, etc. Ça, c'est... Alors, toutes les sciences cognitives de l'action contemporaine ont un objectif et un seul, c'est de montrer qu'Anscombe a tort. C'est le but. C'est de dire qu'on va trouver un moyen quand même de donner une description de l'action qui soit peut-être pas au sens d'empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, mais au moins de rejoindre les zones les plus riches de l'intentionnalité et de ne pas rester là comme ça tout nul avec juste l'idée qu'il y a des décharges motrices et des neurones moteurs qui déchargent, etc. Parce qu'avec ça, évidemment, on ne va pas expliquer les couches supérieures de l'intentionnalité. Ça concerne fondamentalement la psychanalyse, parce que la quasi-totalité des descriptions psychanalytiques fines, elles reposent plutôt sur la dimension la plus élevée, la plus sophistiquée, la dépendance aux représentations et aux descriptions de ce que nous faisons, que sur quoi que ce soit qui aurait des bases neurobiologiques. Le fait qu'en général, nous ne savons pas ce que nous disons, nous ne voyons pas faire ce que nous faisons réellement, avec les autres, par exemple, et qu'on prend conscience parfois des années après coup, que ce qu'on a fait avait telle et telle valeur dans telle et telle circonstance, alors que franchement, on n'en était pas conscient, qui est le béaba de la redescription a posteriori, par exemple, des actions de l'enfance, une fois qu'on peut leur donner un sens sexuel qu'elles n'avaient évidemment pas quand on était enfant, ou des choses de ce genre. Cette redescription fait une part absolument majeure à un phénomène comme celui qu'Anscombe décrit in abstracto. Alors, les cognitivistes qui s'intéressent pas à la psychanalyse ont cherché des moyens de remédier à ça. Le grand moyen, comme vous savez, c'est la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que, oui, les actions ont un sens, elles ont au moins un sens fort et stabilisé biologiquement d'un point de vue des sciences naturelles, c'est de servir à nous adapter à nos congénères, ou à nos conspécifiques, comme on dit aujourd'hui, et à notre environnement. Et que donc, effectivement, il y a sacrément intérêt quand un bébé regarde le visage de sa mère, qui rencontre à un certain moment un regard qui vient en réponse, et qu'il n'y a aucun doute que si on prive de ce type d'interaction précoce des bébés, et pas simplement humains, mais même des singes supérieurs, etc., on va provoquer des troubles du développement extrêmement graves, etc., etc. Donc il y a donc nécessairement une stabilisation hein, de certaines actions, l'apprentissage de la motricité, l'apprentissage du langage, l'apprentissage d'énormément de choses se fait par imitation, par des voies de l'empathie, etc. Et que donc on essaie de partir du mouvement, de l'apprentissage du mouvement, de sa régulation, de sa stabilisation en fonction des images, des regards et des mouvements que font les autres autour de nous, pour construire des choses un peu plus riches que simplement l'idée que les mouvements sont, ce qu'on le croyait, de pures décharges mécaniques. Et effectivement, le réel des darwiniens, c'est un réel extrêmement riche, c'est un réel avec des transformations. Il faut que les organismes soient capables de changer de rêve de comportement quand leur environnement change. Donc il faut qu'ils aient des méta-représentations, qu'ils soient capables de réviser un certain nombre de choses qu'ils faisaient de façon routinière, parce que sinon ils vont crever assez rapidement. Et donc on en vient même, n'est-ce pas, à dériver, c'est pour ça que je vous parlais de Bolton et Hill tout à l'heure, les notions contemporaines du self, par exemple, sont vraiment des scénarios de la réécriture des règles que suivent les organismes, extrêmement sophistiqués, intégrés à une présentation darwinienne de la psychologie. Le problème, à nouveau, hein, c'est que même si on monte comme ça en puissance vers des niveaux d'intentionnalité extrêmement riches, qui atteignent le niveau éthologique, le niveau de l'adaptation aux congénères ou au milieu, on est extrêmement loin de ce qui s'interprète au sens analytique, dans la façon dont les analystes ont considéré que les choses devaient se faire, dans les actions ou les comportements des gens. C'est-à-dire, on est très très loin de ce que c'est qu'interpréter un acte manqué ou un lapsus. Le sixième argument, c'était celui que la logique de l'action. La logique de l'action comme étant justement posant le problème, c'est un problème très général, hein, le problème de la naturalisation de l'intentionnalité. Mais si vous prenez ce que c'est qu'on appelle une action en psychanalyse, le problème devient absolument insurmontable, du moins dans l'état de ce qu'on appelle assez généralement l'interprétation. Pourquoi, au fond, tous ces enfants qui ont des troubles neurovisuels ne sont pas beaucoup plus psychiquement malades systématiquement et tous systématiquement autistes? Et pourquoi, chez les autistes, on a quand même peut-être pas tout à fait bien examiné chez d'autres malades mentaux, s'il n'y aurait pas des choses qui montraient justement des troubles neurovisuels fins qui n'ont pas été diagnostiqués, examinés suffisamment. Bon. Pourquoi je mets ça en réserve, pourquoi je m'en parle? C'est que lorsqu'on essaie de comprendre, par exemple, ce que c'est qu'une interrelation empathique pour servir de modèle sophistiqué, de niveau élevé de la relation entre deux esprits, et qu'on essaie de voir comment ça fonctionne. Dans le meilleur des cas, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est Jean de Séti qui en réfléchissant sur l'empathie et sur ce qu'on objective de l'empathie à l'imager, par exemple, ce qu'on a, c'est les fonctions neurobiologiques. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, c'est la sémantique de ces fonctions. Parce que la sémantique, elle n'est pas dans le cerveau. Pour qu'il y ait une sémantique, il faut qu'il y ait un monde. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « aujourd'hui il fait beau », vous pouvez tout à fait bien voir dans le cerveau quels sont les neurones qui s'allument lorsqu'il dit « aujourd'hui il fait beau », etc. Vous pouvez voir quelles sont les zones du cerveau qui sont modifiées. Mais la valeur de sens de ce qu'il dit, n'a effectivement pas la même chose, n'a pas le même sens s'il se lève un matin et s'il y a un monde tout autour de lui où il fait beau, ou si il est au fond d'une cave, c'est son dernier jour et il attend d'être pendu le lendemain. Ou bien s'il est en train de citer tel et tel poète, etc., etc. Le même état d'activation neuronale, on peut en décrire la constance syntaxique ou fonctionnelle, mais si vous ne disposez pas du monde dans lequel il se produit, cet état d'activation neuronale n'est pas interprétable. Donc de Séti dit justement c'est une limite radicale, par exemple, de l'utilisation de l'imagerie cérébrale. Si on ne vous raconte pas une histoire sur ce qui se passe quand on interroge les gens, dont on examine les cerveaux, ce que vous observez n'a pas de sens. Hein. Ce serait comme être capable, par exemple, de fabriquer des phrases dans une langue, parce que vous connaissez toutes les règles de la grammaire, hein, sauf que vous ne savez pas la parler, parce que vous ne savez pas comment les mots s'appliquent aux choses. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a des générateurs automatiques de poésie, n'est-ce pas? Personne ne suppose que les générateurs automatiques de poésie ont une idée de la représentation du monde qu'ils altèrent ou qu'ils modifient quand ils permutent les mots, etc., etc. Mais il y a encore un truc encore plus grave, c'est que non seulement on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Hein, c'est-à-dire que si vous sortez du contexte, non pas sémantique, mais pragmatique, c'est-à-dire, par exemple, dire aujourd'hui il fait beau, hein, dans la bouche de quelqu'un qu'on sort de Guantanamo, n'est-ce pas, qu'on a torturé, etc., c'est une manière de dire je ne parlerai jamais, je vous méprise, et de toute façon vous ne me direz pas un mot, pas du tout, hein, même s'il fait beau dehors, vous voyez, même s'il fait beau dehors, qu'il sort de la chambre de torture, hein, la pragmatique, c'est la description de ce à quoi ça sert de dire les choses. Et dans cette dimension pragmatique, il y a un truc extrêmement important, c'est que nous utilisons les mots non seulement pour communiquer, mais aussi pour affecter les autres. Et que, bien souvent, la façon dont nous utilisons les mots vise à créer des états chez les autres, à nous faire aider, à les menacer, à faire des sous-entendus, etc. Et si vous ne disposez pas du très haut niveau d'interaction émotionnelle à l'intérieur duquel cette pragmatique se met en place, ça ne sert à rien de comprendre non seulement la syntaxe, mais même la sémantique des phrases. D'accord ? Si vous perdez ce que les langages font et ce que vous faites en utilisant le langage de cette manière. Or, bien évidemment, la psychanalyse, hein, ne s'intéresse pas du tout, en général, c'est ce qu'on appelle l'attention également flottante, uniquement à la syntaxe ou à la sémantique, mais bien évidemment, l'attention également flottante, hein, de l'écoute analytique, elle se porte sur les effets, ce qu'on veut faire à l'autre en parlant ainsi. Ce qu'on veut faire à l'autre en parlant de telle et telle manière. Or ça, je crois que c'est radicalement impossible à naturaliser, parce que ce n'est pas dans le cerveau. Ce n'est pas du tout dans le cerveau. Bien sûr, il faut un cerveau pour pouvoir avoir ce type d'effet émotionnel, mais bien évidemment, là, c'est uniquement en fonction des conditions historiques, morales, sociales de l'interaction, que les choses vont être reconnues de cette manière. Le cerveau peut être ce qui nous est utile, entre autres choses, pas plus d'ailleurs que le corps, que le sexe, que les vêtements, que le lieu dans lequel on se trouve, que le titre et la fonction des personnes qui se parlent, hein. Fait partie des éléments qui déterminent, qui nous permettent de calculer ces choses-là, c'est vrai, mais pas un titre supérieur qu'au reste. Donc, et je conclue, ce que je voulais dire, c'est surtout ce point-là qui m'importe. Les arguments les plus forts contre le rapprochement entre les neurosciences et la psychanalyse, à supposer, hein, qu'il y ait vraiment un certain type de psychanalyse qu'on puisse faire, hein, c'est que c'est totalement détaché de l'espace d'interaction extrêmement élevé dans lequel se situent les interprétations analytiques, la réécriture du passé, la construction en analyse, la construction des interprétations, et que, en réalité, le type de notion auquel on a affaire est verbalement ressemblant à ce qui est en jeu dans l'analyse, mais qu'il n'y a aucun moyen de faire coïncider, de mettre en continuité les deux extrémités du spectre. Je dirais même à cet égard que la psychanalyse, si la psychanalyse est un corpus suffisamment rationnel, une pratique suffisamment consistante pour qu'on puisse en parler, est un cas d'école pour montrer les limites radicales de tout le projet de naturalisation ou de l'intentionnalité, qui est l'objectif déclaré de la neurophilosophie, enfin du moment où les neurosciences deviennent un système explicatif du monde et qui est très populaire. En revanche, et ça, je crois que c'est peut-être, par exemple, c'est seulement en lisant Ariane Bazan que j'ai peut-être eu cette idée, il va de soi que sur ces bases-là, il n'est évidemment absolument pas exclu qu'on puisse utiliser, comme Freud l'a fait, des formes particulières de neurobiologie ou de sciences cognitives pour enrichir des formes d'interaction particulières avec les patients, en allant par exemple se poser des questions particulières qu'on ne se serait pas posé dans le cadre d'une culture psychanalytique exclusive. Bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas comme j'ai une vision très sceptique et très déflationniste en fait, de la psychanalyse. Moi, je crois que la psychanalyse, ce n'est pas un corpus de concepts, c'est un corpus de questions. Et que les concepts psychanalytiques, ils n'ont de sens que lorsqu'ils sont insérés, non pas dans des énoncés descriptifs, mais dans des questions qu'on pose aux gens. C'est au moment où vous réussissez à poser et votre père dans tout ça. C'est pas parce que vous parlez du père, c'est parce que vous posez la bonne question au bon moment. C'est ça, avoir le complexe d'Œdipe, c'est pas une théorie qui vous explique pourquoi les mères sont des salopes. Hein. C'est un truc qui sert à poser une bonne question au bon moment. Si, après tout, ces notions-là peuvent être prises d'une autre manière et qu'il y a une interaction clinique originale qui se passe, parce que tout d'un coup, on va dire « Mais est-ce que tu vois ce truc-là à gauche de ton champ ?» et mes boucles d'oreilles, etc. Ça peut avoir toutes sortes de conséquences qui ne sont pas simplement neuropsychologiques. Lorsque vous citez le gamin, n'est-ce pas, qui dit « Mais tu ne m'as jamais dit que quand on regardait un visage, on en voyait les deux moitiés. » Moi, je veux bien que vous lui donniez une signification neuropsychologique, etc. Pour moi, c'est une phrase qui résonne de manière extrêmement impressionnante quant à la façon dont ce gamin est très bien situé dans le langage. C'est-à-dire, évidemment, il découvre ce que c'est que la loi du langage. C'est qu'il ne fonctionnait pas du tout comme il croyait. C'est quand un visage, pour lui, c'était le mot visage, la fonction de ce que c'est que se repérer par rapport au visage, dépendait de ce que sa mère lui a dit ou pas. Donc là, il y a vraiment c'est une question qui n'est pas simplement une contre-épreuve expérimentale d'une hypothèse sur l'hymen de psy. C'est aussi une modalité nouvelle de la relation avec la maman, l'âme qui est en train de s'apercevoir de la place qu'elle a comme mère par rapport à un enfant qui la met en position de dire ce que c'est que le juste usage des mots et qui lui dit, mais au fond, oui, bon, bah maintenant, moi, le mot de visage que tu m'as enseigné, je peux en faire quelque chose dont je n'aurais pas eu idée avant. Et ça, je trouve que cette phrase magnifique de l'enfant, n'est-ce pas, « Mais tu ne m'avais jamais dit que quand on regardait un visage, on en voyait les deux moitiés », je trouve que c'est quelque chose qui fait sentir à quel niveau, justement, une interprétation analytique a du sens. Pas au sens de la neuropsychologie, de la contre-épreuve, mais au sens de la modification extrêmement fine de la façon dont l'enfant va intégrer son vécu sensoriel au langage grâce au fait qu'il a une maman et que cette maman lui parle. Et que là, en fait, c'est pas simplement, vous voyez, peut-être qu'on va pouvoir le rééduquer, mais c'est aussi le type de relation qu'il va pouvoir avoir là avec les mots et ce que les autres peuvent lui apprendre sur le sens des mots qui va en être altéré et qui a, pour moi, là, une signification psychanalytique tout à fait indépendante de la signification neuropsychologique. Sauf que, s'il n'avait pas eu cette magnifique expérience que vous faites, eh bien, on n'aurait pas eu l'occasion d'attraper ça dans le propos de l'enfant. Merci.
La première chose, vous dites, est-ce que la rationalité de la psychanalyse gagne quelque chose à être formulée dans un vocabulaire de la neuropsychologie ou de la psycho ou des neurosciences, et vous proposez de défaire le travail de Freud pour réécrire d'une nouvelle manière? Je pense que déjà en posant les choses comme ça, je pense qu'il y a un point de désaccord où la question n'est pas seule, il dit bien, il faut ajouter une perspective additionnelle et non pas substituer l'une à l'autre. Quand vous dites réécrire, il y a la tentation de défaire un objet pour en substituer un autre à la place. Et moi, je pense qu'il s'agit peut-être de décrire ou de coécrire avec un autre appareil qui ne viendrait pas se substituer à l'autre, mais lui ajouter une autre focale, je dirais comme un autre angle de vue. Et que peut-être que comme disait Fédida, se laisser déformer par un autre apport théorique pour essayer de se laisser imprimer quelque chose qui nous permettrait de le voir différemment, mais pas de le réécrire. Donc je pense que déjà...
Co-écrire,
co-construire, et je reviendrai là-dessus sur ce que vit de chez Inos. Une deuxième remarque sur Alan Shore, c'est vrai qu'il est très self-narcissiste, mais je vous invite quand même à relire. Le chapitre qu'il a écrit sur l'identification projective, il fait appel à tout un autre corpus dans un de ces deux gros tomes absolument imbuvables, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il manque crucialement de données expérimentales, mais son chapitre sur l'identification projective a d'une toute autre qualité de lien, à mon avis, que ce qu'il peut faire sur ce que dit Coates. Alors, un autre point, le point 3, vous dites, est-ce que c'est différent si c'est un trouble central ou périphérique? Alors là, j'ai envie de vous dire oui, c'est très très différent. Je ne vais pas aujourd'hui m'étendre là-dessus parce que c'est ce qu'on a fait pendant tout ce séminaire et ce qu'on essaie de faire. Mais quand vous dites, il y a peut-être d'autres champs comme les troubles développementaux, le Gilles de la Tourette, hein, vous dites, est-ce que je me dis que ce n'est pas quelque chose que dans le cerveau, mais quelque chose de psychodynamique. Et je crois qu'on n'a jamais posé la question de savoir si c'était ou psychodynamique ou du cerveau, mais bien entendu, c'est les deux. Et le problème du Tourette, c'est peut-être une désinhibition ou un contrôle de l'inhibition, mais qui ne change pas le contenu de ce qui est dans le psychisme du patient. Ou en tout cas, il y a un contenu qui est plus ou moins retenu. On s'aperçoit que chez les patients cérébralisés, ils vous filent un contenu psychique pour peu qu'on l'écoute et qu'on donne la peine de l'entendre et de le comprendre. Et c'est là où j'en reviendrai à la fin. Quelque chose qui nous fait dire que ce n'est pas « ou », mais c'est « et ». Donc je remplacerai le « ou » par le « et ». Le trouble développemental, oui, mais je dirais tout simplement le développement. Je pense que, et je viendrai au point 5, alors moi je pense qu'on n'est pas dans une perspective de causalité, mais pour arriver à ce que j'appelle co-construire, et c'est une métaphore de Villocher que j'aime beaucoup, il faut qu'on ait deux cerveaux qui soient capables d'avoir des processus de construction compatibles. Pas forcément partageables, mais compatibles. Et la représentation qu'on a du cerveau de l'autre, c'est une représentation qu'on a par défaut parce qu'il fonctionne comme le nôtre. Mais quand on travaille avec un bébé et qu'on tente de faire la psychanalyse du bébé, les gens qui arrivent à faire, et pourquoi on ne le fait que depuis 20 ans, c'est qu'on a inféré qu'il y avait dans le fonctionnement du psychisme du bébé, on a utilisé les connaissances qu'on avait développementales pour essayer d'inférer comment pouvait se représenter le psychisme du bébé. Donc je pense que d'avoir des connaissances en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau nous permet d'avoir cette représentation minimale qui fait que si on n'a pas ça, on ne peut pas être dans le dernier point que vous évoquez, connaître ce qui va altérer le contexte d'interaction et le fonctionnement. Si on n'a pas une idée, tant soit peu, de comment ça marche le cerveau d'un bébé, on traite avec un trouble digestif. Si on n'a pas un tant soit peu de savoir comment ça marche un enfant qui a un trouble neurovisuel, on va complètement se planter parce qu'on va non seulement lui demander des épreuves qu'il ne sait pas faire, mais on ne va pas pouvoir partager une phénoménologie de ce patient ou quelque chose qui nécessite, la seule chose qui marche quand on est en thérapie avec les patients, c'est que lui, le patient, sache qu'on a un tout petit peu une représentation de ce qui lui arrive dans la tête. Éric me demandait tout à l'heure, avec un patient agnosique visuelle et prosopagnosique, j'arrive pas du tout à me représenter comment ça va un patient comme ça. Mais je pense que tant qu'on n'a pas pu se représenter un minimum de comment pense et se représente l'autre, on ne peut pas avoir ce contexte minimal de ce qui va constituer l'interaction à deux et de comment le psychanalyste va se laisser altérer par ce qu'il entend ou pas du patient, ce qu'il relève comme pertinent à ce moment-là, ou de ce que le patient pense pertinent à ce moment-là de partager. Voilà l'essentiel des points que je voulais développer. Et pour dire que un certain nombre des arguments que vous nous avez donnés, à mon avis, je peux les lire exactement à l'inverse en disant c'est justement complètement nécessaire de faire ce travail pour peu qu'on ne pense pas que ça va être une nouvelle réécriture, un appareil de substitution, mais un appareil de d'addition d'un élément de complexité ou d'angle de vue différent. Quand on conçoit comme ça, à mon avis, non seulement nécessaire, mais enfin utile, mais à mon sentiment nécessaire. C'est une discussion qu'on a eue avec Ariane Bazan. Effectivement, est-ce que quand on est un psychanalyste lambda et qu'on voit surtout des patients lambda, est-ce qu'on a besoin de savoir comment ça marche dans le cerveau? Non, si c'est par défaut comme le nôtre. Oui, si c'est pas comme le nôtre. Et chez les enfants, c'est pas comme nous. Même si on a été enfant, on s'en souvient pas toujours très bien.
Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis évidemment tout à fait d'accord. À partir de ce point, on termine. Hein. Moi, je suis très frappé du nombre de gens qui viennent vous voir en disant... il y en a pas beaucoup, moi, parce que voir un psychanalyste, quand on a un enfant autiste, c'est devenu presque héroïque. Mais enfin, quand on en voit, ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'on n'est jamais si sûr que ça, que par exemple, on parlait des troubles visuels, mais que la surdité a été correctement examinée. Et que moi, je suis absolument persuadé que les psychanalystes se sont tirés les balles dans les pieds, très souvent, faute d'être non seulement des médecins, mais des cliniciens absolument experts dans les troubles sensoriels, des choses comme ça. C'est que je pense que. Il y a des théories qui sont fabriquées, même quand vous disiez des gens très très informés, il y a des gens qui se fabriquent des théories sur leurs enfants et puis un jour on leur apprend qu'en fait c'est pas du tout de l'autisme qu'ont leurs enfants. Donc ça c'est quand même assez intéressant comme prudence à avoir et là on voit bien que les connaissances qu'on a sur le cerveau devraient nous inciter à être extrêmement, je dirais, attentifs à ne pas fabriquer des théories psychanalytiques de certaines maladies des enfants, notamment clés en main, qui sont simplement des caches-misères de l'ignorance des déterminants neurobiologiques qui en dessous. Et ça, comme il se trouve que je m'intéresse énormément au suivi analytique des grands schizophrènes dans l'hôpital où je travaille, hein, c'est des choses de grands psychotiques, de gens qui ont moi je suis extrêmement sensible au fait que, par exemple, les troubles moteurs fins, hein, ça existe dans la schizophrénie. Il faut arrêter de dire que c'est. Les gens, ils ont quand même des troubles extrêmement subtils, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut objectiver avec des instruments particuliers. Et que ça a des conséquences sur le délire, ce qu'on appelle le délire d'influence, le fait d'agir et d'être agi, des choses comme ça, c'est même très important. À cet égard, ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant mieux parce que ça débarrasse la psychanalyse d'avoir à prendre en charge un certain nombre de choses. Et ça, je crois que c'est ça moi, qui m'intéresse dans le dialogue entre les neurosciences et la psychanalyse, hein. C'est justement le nombre de choses qu'on peut enfin sortir de la psychanalyse, c'est-à-dire tous ces trucs dont on n'a pas à rendre compte, au motif qu'on devrait rendre compte de tout, quand on s'occupe d'un patient psychotique, etc. Mais pour moi, justement, ce n'est pas du tout une raison de le rapprocher, c'est une raison d'enfin se débarrasser de choses que peut-être institutionnellement, par habitude, on a cru devoir traiter. Mais quand vous dites, par exemple, jamais personne n'a discuté de la question chez les Tourettiens, si c'était psychodynamique ou neurien, alors là, toute l'histoire du syndrome de Gilles de la Tourette le dément. Hein. Ouais. Pierre Fenn, c'est aujourd'hui. Et même parce que Beckmann était vraiment un ami c'est Goodman, c'est ça, le psychanalyste américain, avec qui il a toujours gardé des rapports, mais c'était très difficile. Les Shapiro détestaient la psychanalyse, ils ont même Gilles Locher en 80 s'est fait quasiment insulter de supposer qu'il pouvait y avoir de l'intentionnalité dans l'éthique, hein, lors de la journée du centenaire à Salpêtrière. Sur l'éthique. C'est aujourd'hui, et c'est intéressant, que justement là, il y a peut-être quelque chose de très substantiel à faire. Et peut-être. Bon, sur les autres points, qu'on ajoute des perspectives additionnelles, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas plus cohérent que les gens, que les lacaniens, qui s'imaginent que si vous faites beaucoup de linguistique, vous allez améliorer votre connaissance de la psychanalyse.
Si, c'est plus clair.
On peut multiplier les entrées comme ça, les vertex, là, on peut coécrire, on peut enrichir, si vous voulez, le corpus de savoir, mais il sera très difficile de prouver que ça augmente le contenu même de ce qu'on appelle la psychanalyse. Bon, l'identification projective, on va la laisser de côté parce que vraiment, ce qui raconte une identification projective, hein, c'est ni fait ni à faire. Hein, l'identification projective, c'est un an. Ou regardez les grands travaux qu'il y a sur l'identification projective, ça veut dire tout et son contraire, hein, l'identification projective. Et là, c'est vraiment utiliser un mot qui est un catchword, n'est-ce pas, pour réussir à émettre des choses qui ignorent complètement l'histoire du concept.